Il existe tant de mauvaises, de méchantes solitudes dans ce monde, tant de personnes seules et isolées malgré nos 7 milliards de voisins de palier finalement, avec ces communications si faciles. Il y a bien trop de mauvaises solitudes, mais en même temps nous n'avons pas assez de cette bonne solitude choisie qui permettrait que nous soyons mieux en forme, d'avoir de meilleures relations avec les autres, meilleures relations avec notre existence et avec notre Dieu. Jésus apporte un éclairage intéressant, je trouve, sur la juste solitude, dans quelques paroles des évangiles, mais surtout dans sa manière d'être. Alors je vais vous lire toute une série de petits textes des évangiles qui sont en rapport avec cette question, avec peut-être la mauvaise solitude, mais aussi avec une solitude choisie, une bonne solitude. D'abord dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux cette parole. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan, mais il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après ce temps où Jésus se retire donc dans la solitude avant de se lancer dans son ministère, une autre fois devant son succès, Jésus se retire pour prier seul. Au chapitre 5 de l'Évangile selon Luc. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les lieux déserts et là, il priait. Une autre fois, face au danger, on voit Jésus fuir, se retirer. Matthieu 12, au verset 14 et 15. Les pharisiens se consultèrent sur les moyens de le faire mourir. Mais Jésus, l'ayant su, se retira de ce lieu et partit. Alors un autre endroit, Marc 6, au verset 30, Jésus invite ses disciples à venir avec lui et qu'ils se retirent ensemble dans un lieu désert. Les apôtres, donc après avoir été envoyés en mission, ils reviennent, ils se rassemblent auprès de Jésus, ils lui racontent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit « Venez maintenant à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait tellement de personnes allant et venant qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Mais beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, on les devança au lieu où ils se rendaient. Et ainsi, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion dans son cœur pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit alors à leur enseigner beaucoup de choses. » Au chapitre 16 de l'Évangile selon Jean, Jésus parle de la solitude qu'il ressent et de l'aide qui lui vient de Dieu. « Voici, nous dit Jésus, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Effectivement, un peu plus loin, les disciples le laissent seul. On le voit, par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26, où il nous est dit que Jésus alla avec ses disciples dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez un instant avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint alors vers ses disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller avec moi quelques instants ?» Et puis enfin, dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu, ce passage où Jésus nous invite à prier dans la solitude. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Mais donc toi, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites qui vont dans les rassemblements et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache même pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout au milieu des rassemblements et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu pries ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait très bien de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Et puis un peu plus loin, Jésus nous dit, continue, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont alors leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, tu parfumes ta tête, tu laves ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de prendre un temps pour laisser ces textes résonner à l'intérieur de nous-mêmes avant de réfléchir dessus. Je vous propose de chanter le psaume 107. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce, les strophes 1, 2 et 4 du psaume 107. Avec saint Augustin, nous prions. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi de peur que par lassitude je ne veuille plus te chercher, mais fais que toujours je cherche ardemment ta face. Ô toi, donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver et qui m'as donné l'espoir de te trouver plus encore. Devant toi est ma force et ma faiblesse. Garde ma force et guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Là où tu m'as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime. Augmente en moi ces trois dons, de la force, de l'intelligence et de la foi, jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier. L'homme est un animal social ou politique, et donc la solitude nous rend mal à l'aise. Elle ne nous est pas si naturelle que ça. Et quand une personne est seule, c'est donc bien souvent malgré elle, malgré sa volonté. Alors parfois c'est un accident de la vie qui est la cause de son isolement, parfois c'est une certaine maladresse dans la façon d'être en relation avec les autres, comme une trop grande timidité par exemple. Parfois, c'est la méchanceté d'autres personnes qui font qu'une personne est isolée du groupe et puis peut-être la lâcheté, la peur des autres qui ont peur de montrer leur solidarité. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à Jésus à la fin de sa vie, mais cela arrive tous les jours, aussi bien à la crèche que dans le travail, dans la famille ou je ne sais où, dans tout groupe humain, en fait. Alors, c'est parfois aussi en partie de notre faute si nous sommes rejetés ou isolés, car quand nous sommes égoïstes, finalement, nous nous enfermons dans une bulle. L'Évangile est plein de ces situations de personnes qui se retrouvent en marge pour diverses raisons. Et Jésus fait preuve d'une vraie solidarité, sans s'arrêter pour savoir si la personne est en partie responsable du pétrin dans lequel elle s'est fourrée. Pour Jésus, ce n'est pas un critère de savoir qui est responsable pour le problème. De toute façon, il combat la solitude avec une incroyable liberté, avec même une choquante liberté quand c'est des gens infréquentables qu'il va rencontrer. Et puis, il le fait en mettant dans un certain sens en péril sa propre mission. Rien ne l'oblige de fréquenter Zachée ou Matthieu, qui sont visiblement des requins mal vus de ceux qui l'entourent pour avoir bien tondu la population, bien profité de leur fonction. Rien ne l'oblige de guérir un aveugle, un paralytique, mendiant au bord du chemin. Jésus aurait pu, il aurait dû finalement, se dire en lui-même, « Eh bien, ma mission, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Je vais annoncer à cet homme que même handicapé, et c'est vrai, sa vie est digne d'être vécue, qu'il est aimé de Dieu de toute façon et qu'il est gardé pour l'éternité dans le sein du Père. Amen. Mais en agissant ainsi, Jésus serait resté en dehors de la bulle de solitude de cet homme malade ou de l'homme méprisé de tous. Nous le savons bien, même une petite rage de dents peut faire que nous sommes dans une souffrance telle que nous sommes isolés de tout, même isolés d'un sens possible pour notre vie. Et pourtant, ce n'est qu'une dent. Combien plus quand nous sommes en souci pour notre situation, ou quand nous avons le sentiment d'être indignes, ou quand nous sommes en dépression, ou que, voilà, nous sommes alors comme coupés dans une bulle, coupés de tout, et ces difficultés nous isolent. Elles nous prennent à la gorge pour nous enserrer comme, vous savez, dans ce texte où une femme adultère est conduite vers Jésus, encerclée par des personnes qui la pressent pour même la lapider finalement, mais que Jésus délivre en écartant ce cercle des accusateurs. Même si nous ne résolvons pas tous les problèmes de ceux qui nous entourent, bien entendu, un simple geste peut rejoindre vraiment l'autre dans cette solitude et, comme qui dirait, percer la bulle qui l'isole du monde. Parfois, cette bulle éclate d'un coup, finalement, et la personne est comme délivrée de cette solitude. Parfois, c'est seulement comme si un trou était fait permettant à une personne ensevelie dans des décombres de tout d'un coup pouvoir apercevoir un rayon de lumière, prendre une goulée d'air fraîche et sentir qu'un avenir est possible. Jésus perce cette bulle de solitude qui isole la personne, quelle qu'elle soit. Alors cette attitude, bien sûr, nous appelle à un peu de compassion et de solidarité et nous montre que ce n'est pas forcément bien grand-chose à faire. Mais c'est aussi, je crois, un des grands bénéfices de la foi que de sentir l'aide de Dieu, un peu comme le dit Jésus quand il sent que même ses proches l'abandonnent. « Vous me laisserez seul, mais je ne suis jamais seul, car le Père est avec moi. » Bien des personnes sentent cette présence de Dieu, cette présence de quelque chose qui les connaît et qui les reconnaît et qui les aime. Cela vient percer notre bulle de solitude et c'est d'un grand, grand secours. Et alors, en lisant les pages de l'Évangile, nous pouvons saisir que les témoins disent vrai quand ils disent que Christ est ressuscité, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde ou qu'il est l'Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Car en lisant ces récits, en lisant ces témoignages, nous pouvons sentir, oui, que nous sommes aussi cet isolé que le Christ rejoint, que Dieu rejoint, qu'il guérit dans un certain sens, dont il ouvre les yeux, qu'il aide à trouver une paix qui nous permet enfin de nous mettre sur pied et de poursuivre notre route dans la liberté. Ces personnes qu'il libère, Jésus les remet sur pied, mais il ne les colle pas, il leur permet de se mettre sur pied et de poursuivre leur route, donc dans un certain sens, encore physiquement seul, mais plus vraiment dans cette bulle de solitude qui les coupe. Et je crois que c'est un des rôles de l'Église que d'être les uns pour les autres des signes visibles et sensibles de ce Dieu qui nous rejoint. Chacun de nous est ou peut vraiment être dans ce sens un sacrement pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un signe visible de cette grâce invisible de Dieu. Et il suffit parfois de se tenir, comme Jésus le demande à ses disciples, de se tenir près de l'autre quand l'autre se sent seul, se sent dans une bulle de solitude. Alors Jésus lui-même se sent seul quand il est rejeté, quand il est menacé. Et il s'appuie sur la prière, mais même avec l'appui de cette prière, il cherche aussi l'appui d'amis proches, de Pierre, de Jacques et de Jean pour veiller sur lui, juste de rester un peu à côté de lui en veillant. Et quand il flanche, Jésus est vraiment affecté, on le sent par ses paroles un peu amères, ces paroles tristes qu'il dit à Pierre, Jean, vous n'avez pas pu rester ne serait-ce qu'une heure avec moi en veillant. Même s'il n'est, comme il dit, jamais seul, car le Père est avec lui, il a besoin ne serait-ce que de cette présence humaine qui veille sur lui. Car cette simple présence est comme un signe visible de cette grâce invisible que Dieu Signe que son existence, même pour lui le Christ, que son existence a du prix au moins pour quelques-uns, au moins pour une personne. Alors en général, ce n'est donc pas le 13e des travaux d'Hercule que d'être ce signe, ce petit signe qui peut percer une bulle de mauvaise solitude de quelqu'un. L'Évangile nous montre que Jésus a besoin d'amitié, donc dans des moments clés de son cheminement, au début, à la fin, dans un moment où il hésite aussi. Mais on le voit tout au long de son cheminement, tout au long de son ministère de Christ. Il a besoin de l'amitié de Lazare et de ses sœurs. Il est vraiment reconnaissant du geste d'une femme qui gaspille un litre de Chanel numéro 5 en le versant sur ses pieds. Il a besoin de prendre du temps avec ceux qu'il aime. Même Jésus a besoin de faire la fête à un mariage ou de faire un banquet avec des amis. Même Jésus a besoin de ne pas se sentir tout seul. Chacun de nous, je crois, en a encore plus besoin que d'avoir un toit sur la tête. Jésus nous invite donc tout simplement à avoir des gestes qui percent ces bulles de mauvaise solitude, mais qui respectent la bonne solitude, car c'est là finalement toute la difficulté de l'ingérence dans les affaires des autres en fait. Il faut, oui, reconnaître la bonne solitude, car à côté des accidents qui nous ensevelissent plus ou moins dans une mauvaise solitude, il est normal de ressentir une solitude qui est saine, qui est utile et qui est bonne, elle. En effet, chaque personne humaine est unique et c'est donc à juste titre que nous nous sentons plus ou moins incompris, plus ou moins seuls de notre espèce. Nous sommes certainement un petit peu un extraterrestre sur cette terre, parmi les autres. Même le plus proche des amis se tenant à nos côtés et regardant avec nous le même paysage, il ne voit pas tout à fait les choses sous le même angle de vue que nous, à cause de la parallaxe. Oui, nous sommes seuls dans nos chaussures et tout l'amour du monde n'y fera rien. Et heureusement, parce que l'amour n'existe que s'il y a des individus distincts qui s'aiment dans leurs différences, sinon ce n'est pas de l'amour. Mais évidemment, cette solitude n'est pas facile à vivre. Il peut y avoir une tentation de repli, il peut y avoir une perplexité, puisque personne n'a jamais été tout à fait ce que je suis, ni visité l'existence que je vis maintenant. Qui pourra me comprendre? Qui pourra m'aider à avancer dans la vie? Oui, cette solitude réelle est encore renforcée par le fait que nous sommes un être, que nous le voulions ou non, en évolution, et si possible en genèse. Cela fait que nous sommes toujours un peu ou devrions être dans un léger déséquilibre finalement, connaissant des difficultés pour savoir qui nous sommes aujourd'hui, parce que nous ne nous reconnaissons pas en fait, et puis ce que nous devenons. C'est avec difficulté que l'enfant se voit grandir, que l'adolescent doit devenir adulte, puis il y a la difficulté d'apprendre à vieillir et à bien vieillir. Cette solitude, elle est encore un peu plus dramatiquement vécue, car nous sentons que nous existons, mais en même temps que nous glissons finalement. Oui, nous sentons que nous pourrions être heureux maintenant si nous n'avions pas si peur devant l'inconnu de notre avenir. Déjà l'avenir en ce monde, mais aussi notre avenir encore plus incertain finalement, au-delà de ce monde visible qui finira pour nous-mêmes, nous le savons bien. Et donc il est utile de se réconcilier avec ce sentiment de solitude réelle, car il est bon. C'est bon de se sentir cette solitude. C'est le prix à payer de l'extraordinaire noblesse, non seulement de l'existence humaine, mais de notre existence individuelle qui est si riche, qui est si mobile, qui est si vivante, et puis de cette idée d'éternité qui nous est donnée finalement, et qui nous est promise. Mais dire que ce sentiment de solitude est un prix à payer pour notre qualité d'être, c'est sans doute trop négatif d'appeler ça un prix à payer. C'est une façon de voir qui est pervertie par notre expérience de la mauvaise solitude. car effectivement le ressenti finalement est presque le même entre ces deux solitudes, entre la mauvaise solitude où nous subissons l'exclusion du groupe humain et la menace d'être tué, et cette bonne solitude qui consiste à sentir la merveille unique que je suis, cette merveille unique, vivante, mobile et spirituelle que nous sommes tous finalement. Si nous n'arrivons pas à apprivoiser ce sentiment de bonne solitude, nous risquons de chercher à nous rassurer n'importe comment. Par exemple, en tentant de nous fondre dans la masse, ou au contraire en dépassant les autres, tant qu'à faire d'être seul, autant marcher sur la tête des autres, ou bien de nous rassurer avec des gris-gris divers et variés, chaque âge, chaque caractère, chaque milieu a les siens finalement, pour se rassurer, pour avoir l'impression de tenir. Alors tout l'Évangile nous invite bien entendu à nous aider les uns les autres, à accepter cette bonne solitude, à la vivre comme des membres tous différents qui sont unis dans un même corps. Et c'est à ça que nous invite tout l'Évangile. Et servir l'autre, je crois que c'est d'abord l'aider à se réconcilier avec cette bonne solitude. C'est être un signe visible que l'autre, dans sa singularité, a du prix à nos yeux et donc un sens qui le dépasse, qui dépasse le simple visible, la simple biologie, la simple matière. C'est accepter d'avoir besoin de lui aussi, de son génie propre, de son point de vue personnel. Et puis, c'est lui être fidèle, même quand il évolue librement, qu'il sente qu'il y a là un point fixe, fidèle malgré son évolution. Et puis peut-être l'aider à être un peu plus en forme, dans sa forme à lui, et non pas ce que nous voudrions qu'il soit. Et donc, la tentation pour parer à cette solitude, ça peut être parfois de chercher à la réduire en se regroupant en un club de gens qui vont bien se serrer les uns contre les autres, et pour se tenir chaud, et pour se bâtir un donjon à coups de valeurs et de dogmes, de pratiques et de solidarité humaine, pour avoir un certain sentiment de sécurité, un sentiment d'appartenance bien visible. Alors cela peut aider effectivement, dans un certain sens, certaines personnes, au moins au début, au moins un certain temps. Mais le Christ nous mène plus loin, le Christ nous libère en nous donnant le courage de vivre et d'évoluer, car notre sécurité, en fait, est ailleurs. Et pour cela, il est bon, nous dit Jésus, de nous retirer dans notre chambre, dans le secret, seul, avec Dieu, avec le Père. Jésus pratique lui-même une certaine solitude volontaire, en particulier dans chacune des grandes étapes de son ministère de Christ. Et nous l'avons entendu, il exerce ses disciples à cet exercice, et il nous dit: quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu pries ton Père qui est là dans le secret. Ce Père qui est là et qui te voit dans le secret. Il ne nous dit pas de temps en temps, pense à prendre 5 minutes pour faire le point sur ton existence et pour apprendre à te connaître toi-même. Mais Jésus nous invite à prendre des temps de solitude devant Dieu, même très courts, mais que cela structure notre existence comme le rythme de nos repas finalement, car la prière juive dont il parle, c'est cela, c'est le matin en se levant, c'est avant les repas, c'est le soir en se couchant. Pourquoi ? Parce que quand nous sommes avec les autres, nous essayons de nous sécuriser finalement, faussement et parfois cruellement. Dans la solitude physique, quand nous nous retirons, nous sommes moins dans le paraître déjà. Surtout devant ce Dieu qui, comme nous le dit Jésus, nous voit de toute façon dans le secret, nous connaît mieux que nous ne connaissons nous-mêmes et qui nous aime profondément après nous avoir vus ainsi et reconnus. Et donc cet instant remet en perspective les actes que nous allons avoir. Quelques instants pour s'isoler dans la réflexion, en plaçant son être tout simplement devant Dieu, en plaçant ces quelques heures devant nous, devant Dieu, ou au moins se placer devant cette promesse du Christ que toute personne est digne de vivre et d'être aimée et d'être bénie et d'être secourue et d'être aidée. digne de s'exprimer à sa façon en portant ses propres fruits à son propre rythme comme elle peut. Alors je crois que c'est utile de s'isoler et de prier, par exemple avant d'aider quelqu'un, avant de travailler, avant de sortir dans le monde, avant même de créer une œuvre d'art. Car il n'est pas bon de mettre la charrue avant les bœufs, ni de planter un arbre, les branches en terre et les racines vers le ciel. Tu me diras, je n'ai jamais essayé, peut-être que ça pousserait même quand même, mais bon. Car nos fruits seront vraiment nos fruits, de bons fruits, s'ils sont l'expression de notre propre personnalité vivante, une expression de notre bonne solitude, finalement, de notre fragilité, enfin un peu assumée. Car si je fais quelque chose pour me sentir vivant, pour me sécuriser, et non parce que je suis vivant, eh bien ce que je fais alors n'est pas une œuvre d'art, mais c'est la projection de mon égoïsme, finalement. Ou si je fais l'aumône, par exemple, pour redorer mon égo, c'est comme si j'utilisais un pauvre comme un bout de sopalin que je prends dans la cuisine pour astiquer un peu mes chaussures, qu'elles brillent mieux avant de partir dans le monde. Eh bien, c'est triste, si vous voulez. Mais comme le dit Jésus, en priant dans la solitude, non seulement nous sommes au bénéfice, finalement, de l'aide de Dieu qui nous permet de nous tenir un peu debout sur nos pieds, d'avoir le courage d'avancer, de prendre le risque de soulever un pied, de se pencher un peu en avant, en déséquilibre, et d'avancer, alors nous avons des chances de découvrir que ce Dieu qui nous enfante est non seulement mon Père, mais notre Père et notre Mère d'ailleurs. Et cela nous fait sentir qu'en fait nous sommes seuls, oui, seuls de notre espèce, tout à fait, mais que dans un autre sens, nous faisons partie d'un même corps avec d'autres qui ont aussi leur unicité. Alors Jésus nous dit que c'est plutôt une bonne hygiène de se retirer ainsi un peu dans la solitude pour prier notre Père dans le secret. Et Jésus le fait. Il avait pourtant un sacré travail à faire, et même un travail sacré. Là encore, il a du courage, celui de mettre en suspens finalement l'impératif de solidarité qui s'impose à lui, de guérir les gens, d'aller à leur rencontre, et de s'interrompre aussi dans l'urgence de son travail pour accomplir sa vocation d'annoncer, de prêcher l'Évangile. Mais Jésus sait se laisser déranger aussi dans cette utile solitude pour reprendre son travail pour les autres, et même peut-être un peu plus tôt qu'il ne l'avait prévu quand les autres viennent à sa rencontre. Et donc Jésus est pragmatique. Et cela, je trouve, est extraordinairement libérant. Il y a des temps où il accomplit sa mission, il y a le juste temps de la solitude pour laisser Dieu le nourrir et le ressusciter. Il y a des temps de retrait pour ses amis, pour le repos, des temps de fête et des temps de banquet. Mais Jésus ne maîtrise pas tout, même lui non plus. Et quand ça va mal, quand l'ennemi est trop fort, quand les méchants sont trop méchants, les enthousiastes trop enthousiastes, quand ils veulent le faire roi, quand ce n'est pas le bon moment, eh bien il s'adapte. Il y a parfois le temps du courage, fuyons. Oui, nous ne sommes pas à l'usine. Avec Jésus et comme lui, faisons selon notre propre force, faisons comme nous le sentons, comptant sur l'aide fidèle de Dieu. Amen.